7h31 même, le journal Sébastien Legénie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, cette épreuve qui tétanise les bacheliers, la philo, la matière qui fait peur. Trois quarts des 740 000 candidats vont pourtant devoir s'y coller dans trois jours exactement. Reportage à suivre dans un lycée des Yvelines. Dans ce journal également, une affaire de violence sexuelle au cœur du conseil municipal de Saint-Nazaire. Un robot de cuisine bizarrement équipé d'un micro. Une jeune érythréenne expulsée de France vers son pays, rarissime dans le domaine du droit d'asile. Et pour finir, visite d'un musée inédit en fin de journal, un musée de l'économie.
Avec Ali Badou à 7h50, aujourd'hui l'acteur Jean Dujardin, le réalisateur Quentin Dupieux. Ils viennent parler du film Le Daim qui sera en salle mercredi prochain.
France Inter.
Et c'est la star des épreuves du bac, Sébastien, et en même temps la plus redoutée.
Oui, comme chaque année depuis bientôt 50 ans, c'est donc la philosophie qui va ouvrir le bal lundi prochain. Cette grande spécialité de l'école républicaine, la philo, et son cortège de concepts, d'auteurs et de citations. Tout le monde en a peur. La preuve avec ce reportage de Sonia Princé au lycée Alain du Vésinet.
L'angoisse de la feuille blanche. Aucune autre matière que la philo ne suscite autant d'inquiétude. Thomas et Salomé sont presque défaitistes.
Le sujet de philo, il est forcément redouté, parce que si on tombe sur quelque chose dont on ne sait aucune notion, forcément on va rien pouvoir écrire. Après, je pense que pour la plupart des élèves, c'est quelque chose d'abstrait la philo, et c'est en fonction du correcteur que la note se fera.
Si on n'a pas d'arguments, si on ne peut pas citer de philosophe, on perd très très vite des points. Et donc, on peut avoir 15 comme on peut avoir 5.
Beaucoup d'élèves redoutent la notation. Victor, lui, préfère ne pas prendre de risques.
La philo, j'ai un peu abandonné. Et puis, de toute façon, j'ai arrêté les dissertations parce que à chaque fois, je pense que je donne trop mon avis. Et du coup, j'ai pas dessus des super notes, donc je préfère faire le commentaire du texte, quitte à paraphraser, mais au moins, ça assure les points.
Il y a pourtant bien un barème et une évaluation précise, leur répond leur professeur de philosophie, Aïda Ndiaye.
J'ai l'impression qu'ils sont assez fatalistes, en fait, à l'égard de la philo. Donc, moi, j'essaye de les rassurer parce qu'ils ont un sentiment d'aléatoire qui, je pense, est faux, en fait. Donc, un élève qui a travaillé régulièrement et qui a eu des notes, de bonnes notes pendant l'année, il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne réussissent pas à l'examen.
Mais pour réussir, tous espèrent un petit coup de chance, tomber sur le sujet qui va les inspirer.
Un sujet comme par exemple, Nicolas, doit-on faire, tout faire pour être heureux? Millésime 2014, vous avez 4 heures, sachez
et,
aussi...
Et une vie même.
C'est pas trop en effet. Ouais. Sachez aussi que certains syndicats entendent perturber les épreuves de lundi en appelant les enseignants à refuser de surveiller les écrits. Mais le gouvernement a décidé d'anticiper et de convoquer plus de personnel surveillant ou contractuel.
Il est 7h34, on en vient, Sébastien, à cette affaire de violence sexuelle qui secoue la ville de Saint-Nazaire.
Affaire révélée par France Inter et Mediapart, une élue du conseil municipal de Saint-Nazaire accuse l'un de ses collègues de l'avoir violée. Le maire socialiste de la commune renvoie les protagonistes dos à dos. Résultat, sa majorité est déchirée entre les soutiens à la victime présumée et ceux qui ont pris parti au contraire pour l'agresseur présumé. Comme si, 2 ans après la vague MeToo, le milieu politique n'avait toujours pas tiré les leçons du passé, Cyril Graziani.
Quand la victime présumée leur a raconté son histoire qu'elle ne voulait pas porter plainte, 4 de ses collègues ont prévenu le maire. Ils pensaient que leur témoignage la protégerait, que les affaires MeToo étaient passées par là. Au contraire, ils ont été mis au banc par la plupart des autres élus.
Face à nous, un silence assourdissant.
Pascal Hameau est écologiste. En parlant, elle s'est sentie très seule.
Alors qu'on attendait, je pense, une réponse de prise en charge, d'écoute, peut-être de délégation à des professionnels pour justement recueillir cette parole, accompagner des victimes potentielles.
Rien. Le maire renvoie tout le monde dos à dos, adresse un signalement au parquet. Une plainte pour diffamation est cependant déposée par l'adjoint mis en cause contre une autre de ses collègues qui aurait évoqué l'affaire en réunion de majorité. Il s'agit de l'ancienne patronne du MJS et aujourd'hui première adjointe de la ville, Lauriane Degnaud.
C'est une stratégie délibérée pour essayer de me faire taire, de faire taire la victime potentielle et de faire taire toutes celles et tous ceux qui soutiennent la libération de la parole de toutes les femmes.
Le maire de Saint-Nazaire n'a pas souhaité nous répondre. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lui, a décidé d'envoyer très vite une mission sur place.
Cyril Graziani à Lorient, toujours aucune trace du jeune automobiliste recherché. recherché depuis 5 jours après avoir tué un jeune enfant de 9 ans. Le pronostic vital de l'autre enfant touché, âgé lui de 7 ans, est toujours réservé. La passagère du véhicule qui s'est rendue à la gendarmerie n'a donné aucune indication sur le chauffard en fuite. Une marche blanche a rassemblé hier 1 millier de personnes dans les rues de la ville. Quand un robot de cuisine est accusé de pouvoir se transformer en espion, c'est l'histoire inattendue du dernier succès commercial de Lidl. Un robot de cuisine qui fait un carton, les Français se l'arrachent depuis 10 jours, mais Monsieur Cuisine Connect, c'est son nom, cache en réalité un petit secret, un micro. Révélation du magazine spécialisé Numérama, confirmée par notre spécialiste en robot de cuisine, Julien Baldacchino.
L'alerte est venue de 2 utilisateurs qui ont remarqué que l'écran tactile de ce robot cuiseur était en réalité une tablette connectée fonctionnant avec le système Android. En la trafiquant, on peut donc installer des applications, mais surtout, cette tablette est munie d'un micro qui, une fois activé, permet de passer des appels avec cet appareil ménager.
Ouais, salut Alexis, est-ce que tu m'entends ?
Ouais, très bien.
Ok, bon bah du coup, voilà, donc on peut passer des appels Discord avec le Monsieur Cuisine Connect et son micro qui est intégré, on voit bien... Je te remercie.
Autre problème, cette tablette tactile fonctionne avec une version obsolète du système d'exploitation qui n'a pas eu de mise à jour de sécurité depuis 2017 et donc est très facile à pirater. Hier, la direction de Lidl a d'abord expliqué ne pas avoir connaissance de la présence d'un micro sur cet appareil avant de faire machine arrière et d'expliquer qu'il était initialement prévu d'ajouter des commandes vocales au robot, commandes vocales qui pourraient donc être installées prochainement.
Lidl qui ajoute aussi que ce micro est inactif et qu'en aucun cas Lidl ne peut l'activer à distance. À l'étranger, la tension est encore montée d'un cran cette nuit. Entre Washington et Téhéran, l'armée américaine a publié une vidéo extrêmement troublante où, selon le Pentagone, on y voit une patrouille des gardiens de la Révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne, retirer une mini ventouse d'un pétrolier. Une mine qui n'aurait donc pas explosé. Depuis hier, les accusations américaines contre Téhéran s'accumulent quelques heures avant la diffusion de cette vidéo. C'est Mike Pompeo en personne, le secrétaire d'État à Washington, qui a accusé l'Iran, je cite, d'être responsable des attaques d'hier contre 2 tankers dans le golfe d'Oman. Accusation sans fondement, répond ce matin Téhéran. Alors que le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement, l'Europe, elle discutait hier de la possibilité d'un budget commun. Et selon Bruno Le Maire, tous les ministres des Finances de la zone euro se sont mis d'accord cette nuit sur les grandes lignes d'un futur budget de ce type. 19 pays au total sur les 27. Une percée sur un projet très cher à Emmanuel Macron.
Il est 7h39, Sébastien. C'est très rare en matière de droit d'asile, une femme originaire d'Érythrée déboutée de sa demande.
L'Érythrée, l'une des dictatures africaines les plus brutales, où le service militaire obligatoire peut durer des années, où l'opposition est violemment réprimée et dont les réfugiés sont souvent, très souvent même accueillis dans les pays occidentaux, sauf dans quelques cas exceptionnels comme celui de cette Érythréenne interpellée début mai en France et expulsée le 6 juin dernier. Les précisions de Delphine Evenou.
De son parcours et de son profil, on ne sait quasiment rien, si ce n'est que son frère a lui obtenu dans un pays d'Europe le statut de réfugié. Moins elle est identifiable, moins elle courra de risques en Érythrée, explique la CIMADE qui a révélé l'expulsion. Interpellée début mai dans un bus en provenance d'Espagne, la jeune femme est placée en centre de rétention à Toulouse. Et si l'OFPRA valide plus de 80% des demandes d'asile pour les Érythréens, la sienne est rejetée. David Rohi, responsable rétention à la CIMADE, apporte une nuance.
Quelqu'un qui est enfermé dans un centre de rétention qui demande l'asile, c'est une procédure extrêmement accélérée dans des conditions très défavorables. Et la personne, si sa demande est rejetée dans ces très mauvaises conditions d'examen, ne peut pas faire de réel recours. Et là, c'est bien ce qui s'est passé. Ce recours n'a même pas été examiné par la Cour nationale du droit d'asile. C'est gravissime. Par ailleurs, la France a aujourd'hui une politique d'expulsion vers des pays en guerre, des pays où les risques sont extrêmement élevés pour les personnes qui sont expulsées.
L'an dernier, des Soudanais, des Irakiens, des Afghans ont ainsi été expulsés. Pour l'Érythrée, la ligne rouge est donc aujourd'hui franchie, s'indignent plusieurs ONG et associations. Sur le site du ministère français des Affaires étrangères, on peut lire que la situation des droits de l'homme dans le pays est préoccupante avec arrestations et détentions arbitraires. Au ministère de l'Intérieur, on renvoie gêné vers le préfet des Pyrénées-Orientales qui assure n'avoir appliqué que la stricte législation.
Delphine Evenou, un bref grondement entendu hier soir par plusieurs habitants dans la Vienne. C'était vers 22h, un séisme en réalité d'une magnitude de 3,3 enregistré entre Poitiers et Châtel. Châtellerault. L'épicentre exactement se situe à Saint-Léger-la-Palue. Petite révolution dans le milieu du tennis. Les droits télé de Roland-Garros seront désormais soumis à appel d'offres. Jusqu'ici, c'est toujours France Télé qui a diffusé le tournoi pour la somme de 20 millions d'euros contre 80 millions d'euros par exemple pour Wimbledon. TF1 ou M6 pourraient être intéressés. Et pour terminer, plutôt que d'aller au musée du Louvre ce week-end, si on allait au musée de l'économie. Ça s'appelle la Cité de l'Éco, inspirée du concept de la Cité des Sciences. À l'origine, un projet de la Banque de France qui a investi 53 millions d'euros pour sensibiliser les Français à l'économie grâce à un concept ludique et interactif. Delphine Simon.
On peut toucher un lingot d'or, revivre le krach boursier de 1929 ou participer à un jeu de rôle pour simuler une négociation mondiale sur le climat. L'idée, c'est de faire découvrir et de comprendre les mécanismes économiques de façon très pratique. Par exemple, en faisant passer des objets banals au rayon X, comme à l'aéroport. Philippe Ginest, directeur de la Cité de l'économie.
On s'aperçoit que même un pot de yaourt, dont le contenu peut avoir été fabriqué dans la ferme qui se trouve à 200 mètres de chez vous, sa fabrication a nécessité des matériaux qui viennent du monde entier. Pour le plastique, pour l'opercule, pour la colle. Ça parle de l'économie aujourd'hui, telle que ça fonctionne, sans mettre d'opinion. Hein. Et justement, par cette dynamique du jeu, on comprend mieux.
Six thématiques, acteurs, marché, régulation. À la sortie, on n'aura peut-être pas tout compris à l'économie, mais la faire aimer, c'est déjà ça, explique l'économiste Catherine Lubochinski, membre du conseil scientifique.
La France n'est pas bien classée en termes d'éducation économique et financière. Or, de nos jours, tout citoyen doit absolument comprendre l'essentiel, ne serait-ce que pour évaluer la crédibilité et les conséquences des promesses de certains candidats aux élections.
À Mexico, le musée qui a inspiré Citeco peut se targuer de séduire chaque année 200 000 visiteurs.
La Citeco dans l'ancien siège de la Banque de France à Paris, ouverture des portes aujourd'hui. L'entrée est gratuite durant 3 jours.
Merci Sébastien Legénie.